Gloire à Dieu. C'est toujours un plaisir de venir prêcher la parole de Dieu. C'est sûr que, pour moi, il n'y a rien de plus important que la Bible. Pourquoi que je dis ça? Parce que c'est le livre qui a été donné par Dieu. Dieu nous a parlé, Dieu il s'est arrangé pour qu'on puisse avoir ce livre-là, qui est composé de 66 livres, rassemblé dans un seul livre, puis qui nous est parvenu 2000 ans après, pour qu'on puisse le lire, puis qu'on puisse apprendre à connaître Dieu, et à connaître aussi sa volonté. Et à connaître aussi son plan qu'il a formé, parce qu'il y a une histoire qui va se dérouler pour le temps présent, mais aussi pour les temps éternels. Mais en attendant qu'on se rende dans les temps éternels, on est encore les deux pieds dans ce monde, puis on a besoin d'être enseigné, de recevoir les enseignements de la Bible, pour marcher selon la volonté de Dieu. Dieu, dans la nouvelle alliance qu'il a faite avec Jésus, il nous a enseigné un mode de vie. Le but final de ce mode de vie-là, c'est qu'on devienne tous comme être comme Jésus. Dans sa sainteté, dans sa pureté, dans ses paroles, dans ses pensées, dans sa manière d'agir dans ce monde. Dieu veut nous amener à cela. Qu'on porte beaucoup de fruits. C'est de même que le Père est glorifié. Puis dans un des enseignements qu'on va voir ce matin, qui est encore un enseignement de premier pas, parce que c'est des enseignements de base que tous les chrétiens devraient savoir. On va voir un sujet qui touche des cordes sensibles. Parce que la minute qu'on commence à parler d'argent, oups, ça touche des cordes sensibles. Le sujet aujourd'hui, c'est le chrétien et les offrandes. On va prier le Seigneur avant de commencer l'étude. Père Seigneur, c'est dans le nom de Yeshua qu'on est présenté devant toi ce matin, dans le nom de Jésus, notre Sauveur. Seigneur, je te demande que ton Saint-Esprit prenne toute la place, que ton Saint-Esprit nous inspire par ta parole, tous les versets qu'on va lire, toutes les réflexions qu'on va faire sur ta parole, qu'on puisse découvrir ton plan dans tout cela. Puis je te demande, Seigneur, que cela puisse être gravé dans notre cœur, puis qu'on puisse avoir comme une vision clair de ta volonté, qu'on y aille de l'avant là-dedans. On remet nos vies entre tes mains, agis avec une pleine liberté au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons traiter ensemble d'un sujet particulier, un sujet très proche du cœur des gens. Et que pour certains même, il touche une corde sensible et dérangeante au point d'en faire reculer quelques-uns dans leur vie chrétienne. Nous allons parler du sujet de l'argent et de qu'est-ce que Dieu dit de ce sujet. Il y a plusieurs points de vue à propos de ce sujet. Ce que je vous suggère, c'est de suivre l'étude au complet. Ensuite, faites le point dans votre vie avec l'ensemble des versets que nous allons y étudier. Parce que des fois, à mesure qu'on voit des versets, on peut prendre des conclusions trop hâtives. Puis que ça nous met sur des blocages, puis là, on n'est pas à l'écoute de ce que Dieu voudrait nous montrer dans tout cela. La première question qu'on va voir dans la parole de Dieu, pourquoi dois-je donner? Qu'est-ce que la Bible enseigne sur les biens de ce monde? Première question qu'on va répondre. 1 Corinthiens 10, 26. Je vous laisse à chaque fois le temps de sortir votre verset. Je vais lire le verset et essayer de trouver la réponse dans ce verset-là. Puis là, on va écrire nos réponses après que tout le monde ait discuté de chaque verset qu'on va voir. Qu'est-ce que la Bible en enseigne sur les biens de ce monde? On l'a chanté à matin, que tout venait de Dieu. Mais 1 Corinthiens 10, 26 nous dit, « Car la terre est au Seigneur. » Et tout ce qu'elle renferme. Tout ce que vous voyez de vos yeux, tout ce qu'on voit de nos yeux, même ce qu'on n'est pas capable de voir, comme les atomes, on ne les voit pas avec nos yeux, on sait que c'est là, jusqu'à toute la fin de l'univers dans le monde. Nous autres, à notre œil, ça a l'air infini, l'univers. Tout ce qu'il y a sur la terre, tout ce qu'il y a dans le ciel, tout ce qu'il y a dans les eaux sur la terre, appartiennent au Seigneur. C'est une fausse doctrine de penser que ça appartient au diable. le verset qui dit que le diable voulait offrir à Jésus quelque chose, c'est la gloire de ce monde qui offrait à Jésus, non pas les royaumes. Il offrait la gloire. La gloire de ce monde appartient au diable, parce que les hommes ont décidé de donner leur gloire au diable. Mais tout ce qu'on voit de visible et dans le monde invisible, les anges, même les démons, même le nouveau ciel et la nouvelle terre qui va venir, tout appartient au Seigneur. Il est le propriétaire de tout. Fait que vous pouvez écrire ça comme votre réponse. Tout ce qu'il y a ici dans ce monde appartient au Seigneur. Il n'y a rien de ce qui existe dans ce monde qui n'appartient pas au Seigneur. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. On va voir un autre verset qui est comme amplifie cette idée-là. Pour nous, ça s'adresse à nous les chrétiens, à ceux qui ont été rachetés par le Seigneur. Il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Je vous relis cette phrase-là. Et vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartiennent à Dieu. Qu'est-ce que je dois comprendre dans ce verset-là? À qui appartient mon corps? À Dieu. Pourquoi que ça appartient à Dieu?
Parce qu'on est sa créature.
Levez vos mains.
C'est lui qui nous a créés. Si on est sa créature.
À cause qu'il est le créateur, on lui appartient. Dans ce texte-là, ça nous dit une deuxième raison pourquoi qu'on appartient à Dieu. Verset 20. Parce qu'il nous a rachetés. Qu'est-ce que ça veut dire, racheter? Il a payé quelque chose pour reprendre son bien. Pourquoi qu'il est obligé de payer quelque chose pour reprendre son bien? Tout le monde le sait que quand on est venu au monde, on est venu par défaut, on est né sur le bord du royaume du diable, puis on est dominé par le diable toute notre vie, puis on vit dans le péché, on vit dans la débauche, on fait partie du royaume des ténèbres. Quand Jésus est venu vous le dominer, il a payé qu'est-ce que ça coûtait pour pouvoir nous racheter. Il a payé ce que ça coûtait pour régler la dette du péché, puis là, en payant cela, puis quand on accepte d'être racheté, on l'accepte comme notre Sauveur et notre Seigneur, il nous sort du royaume des ténèbres, puis il nous emmène dans son royaume à lui. Maintenant, nous sommes sa propriété, nous lui appartenons, il a payé ce que ça coûtait pour qu'on le soit à lui. Tout ce que j'ai présentement dans tout mon être, mon esprit, mon âme, mon corps, appartient à Dieu parce qu'il m'a racheté. Il me met un acompte en attendant, il m'a mis son Saint-Esprit en moi. Tout ce que j'ai aussi appartient à Dieu parce qu'il m'a racheté, il a racheté aussi tout ce que j'ai, ma femme, mes enfants, ma maison, mes biens, mon argent, mon compte de banque, ma job. Toute notre vie appartient à Dieu. Ça dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et votre esprit qui appartient à Dieu. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, c'est une personne rachetée. Nous devons vivre comme pour glorifier Dieu avec tout ce qu'on est et tout ce qu'on a. Notre but de vivre, notre raison de vivre, on l'a chanté tantôt, ma raison de vivre, c'est de servir Dieu, glorifier Dieu, vivre pour Dieu, marcher avec Dieu, puis d'obéir à Dieu.
Amen.
Amen. Et vous pouvez écrire votre réponse. On appartient à Dieu parce qu'il nous a rachetés. On continue notre raisonnement. Fait que là, on voit qu'à cause qu'il est propriétaire, tout lui appartient. C'est lui qui a créé toute chose, je veux dire. Tout lui appartient. Il est le propriétaire à cause qu'il a tout créé. Puis aussi, il nous a rachetés. Fait qu'on appartient doublement au Seigneur. Qui sommes-nous, les rachetés? Qui sommes-nous pour Dieu? Comment est-ce que Dieu nous voit quand il nous regarde? Oui, il y a pécheur, pécheur pardonné. Mais on va voir que dans 1 Pierre, il y a comme une caractéristique qui nous a été rajoutée. 1 Pierre 4, 10. Comme un titre, comme même une job, une fonction. En 1 Pierre 4, 10, ça nous dit « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, comme chacun, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Quel est le rôle qu'on voit dans ce... comme un titre que Dieu nous donne dans ce verset-là? Dispensateur. Qu'est-ce que ça veut dire, dispensateur? Gérant. Puis il y a d'autres versets que j'aurais pu vous mettre qui nous dit on est des économes de Dieu, on est des intendants, on est des administrateurs, on est des dispensateurs. Tout ça, ça veut dire qu'on est des gestionnaires des biens de Dieu. Ça veut dire que le fait qu'il vous a créé puis qu'il vous a racheté, vous lui appartenez, puis le reste du temps que vous avez à vivre sur la terre, il vous considère comme étant un gestionnaire de ce qui lui appartient. Autrement dit, tout ce que vous avez présentement dans votre être, dans tout ce que dans votre avoir, appartient à Dieu, puis il vous a donné d'être gérant de tout ce qu'il vous prête en attendant, parce que tout appartient à Dieu. Vous pouvez marquer ça, nous sommes des dispensateurs, des gérants. Puis là, comment est-ce qu'il nous dit d'être en tant que gérant? Ça nous dit, comme de bons gérants, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres ce qu'il a reçu. Ça veut dire, vous êtes des gérants présentement de tout ce qui appartient à Dieu, puis votre but premier sur la terre, c'est de faire profiter les autres de ce qu'il vous a confié. Fait que là, quand on parle des diverses grâces de Dieu, ça sous-entend tout ce que tu as reçu de Dieu, mais au service des autres. Fait qu'il y en a qui ont reçu des dons spirituels. Parole de connaissance, parole de sagesse, prophétie, discernement des esprits, dons de guérison et des miracles, parole en langue, interprétation. Ils ont reçu les dons spirituels. Il dit, servez-vous-en dans l'Église pour l'édification du corps, pour donner, pour participer aux autres. Il y en a d'autres qui ont le don de servir, qui sont au service des autres. Il y en a qui ont le don d'enseigner, qui sont au service des autres. Il y en a qui ont le don d'aider, de secourir. Il y en a qui ont le don de gérer. Il y en a qui ont le don financièrement, ils ont le don de faire de l'argent. Fait que Dieu voulait servir de tous nos dons, de toutes nos capacités pour faire profiter son royaume, pour faire profiter ses enfants, pour faire profiter et avancer son œuvre sur la terre. Considérez vos qualités, tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, puis Dieu veut servir de ça pour bénir les autres qui sont autour de vous. C'est ça que ça veut dire. Ça dit, comme des bons dispensateurs, comme des bons gérants, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Tout ce que vous avez, ce que vous êtes, appartient au Seigneur. Mettez ça dans son œuvre. Nous avons été rachetés pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Combien est-ce qu'il y en a qui pensaient que quand ils ont accepté Jésus, c'était pour rester assis sur le banc et rien faire? Juste être là, je suis un chrétien, je suis là, point, demandez-moi-en pas plus. Là, on passerait 10 ans, 20 ans, 30 ans en tant que chrétien, on n'a jamais bougé le petit doigt pour faire quoi que ce soit dans l'œuvre. Est-ce que le propriétaire serait content de notre gérance? Je pense pas. Je pense qu'il s'attend à ce qu'on soit actif, qu'on soit en train de faire des choses en mettant au service des autres ce qu'on est, ce qu'on a, pour faire avancer son œuvre. Amen. Maintenant, de quelle façon doit-on administrer les biens de Dieu? Il y a comme une idée que je dois avoir dans la tête quand j'administre. On va aller lire Matthieu 25, le verset 14 à 19. On va voir là-dedans que chaque personne ici, là, quand tu étais racheté, Dieu a déposé quelque chose en toi, tu es son serviteur, puis il veut que tu fasses fructifier ce que tu as reçu. C'est ce qu'on va voir. Il en sera de même comme un homme qui, partant pour un voyage, y appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Ça veut dire que chacun de ses serviteurs est rendu un gérant de ce que Jésus leur a confié. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Dieu vous donnera jamais rien qui est au-delà de votre capacité. Il ne vous exigera pas quelque chose qui est au-delà de votre capacité. Ce qu'il veut, c'est que vous mettiez au service de son œuvre tout ce qui est selon votre capacité. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, puis il fit valoir. Tout de suite, celui qui en a eu 5, il s'y met à l'œuvre, puis il s'est mis à faire fructifier ses 5 talents. Puis il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents, il en gagna 2 autres. Tu vois que quand tu mets à l'œuvre, puis tu t'impliques dans ce que tu as reçu comme capacité, c'est sûr que ça va multiplier. Dieu va te bénir, puis Dieu va multiplier ce qu'il t'a confié. Mais celui qui en avait reçu qu'un, il alla faire un creux dans la terre, il a fait un trou, il est allé cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. La partie que je veux peser, il y a 2-3 petits points bien clairs, bien vite. Chacun de vous ici ce matin avait reçu quelque chose de Dieu. Vous êtes tous ses serviteurs. C'est quelqu'un qui pense qu'il n'est pas un serviteur de Dieu ce matin. Vous êtes tous ses serviteurs. Il a remis à chacun ses serviteurs, selon votre capacité. Il ne vous exigera pas quelque chose qui est au-delà de vos capacités. Mais il vous a remis quelque chose selon sa capacité, puis il s'attend à ce que vous fassiez valoir, profiter son œuvre avec que vous avez reçu. Puis c'est sûr que quand tu te mets à faire profiter aux autres ce que tu as reçu, que Dieu va t'en donner encore plus. Il est arrivé qu'à son retour, celui qui n'avait 5, il t'a rendu à 10. Celui qui n'avait 2, il a mis ça dans l'œuvre, il t'a rendu à 4. Le seul petit hic, celui qui enterre, il n'a rien ressorti. Puis l'autre point que je veux qu'on réfléchisse, c'est que un jour, il faut que tout le monde le sache, là, je vous le dis, c'est pas moi qui l'ai inventé. Un jour, nous allons avoir rendre compte de notre administration. Moi, je vais avoir à rendre compte pour ma vie, toi, tu vas avoir à rendre compte pour ta vie, toi pour la tienne, toi pour la tienne. Chacun de nous autres, on va comparaître devant Dieu pour rendre compte de notre administration. C'est ce que ça dit, verset 19. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Attendez-vous que Dieu voit tout ce que vous êtes en train de faire dans son œuvre présentement, puis n'oublie rien. Chaque verre d'eau que vous donnez à quelqu'un, Dieu dit, ne perdra pas sa récompense. Tout effort que vous faites dans l'œuvre, Dieu n'oublie rien. Comme aussi, il n'a pas oublié la paresse de celui qui s'est enterré, puis qui n'a rien produit. Puis si on y a voir le reste de l'histoire, il dit, si tu aurais mis ça à la banque, tu aurais eu un intérêt. La minute que tu t'impliques, le moindrement, c'est sûr que ça produit du fruit. Il faut être vraiment paresseux ou désintéressé pour arriver à vivre une vie sans produire aucun fruit. C'est quasiment impossible. Il faut vraiment que tu sois un vraiment paresseux au bout pour jamais t'investir.
Une question que je me pose là-dessus, est-ce que ça existe? Un corps sans l'ordre.
Un corps sans âme. Oui, parce qu'il y a des œuvres que Dieu a préparées, puis il y a les œuvres que moi, j'ai pu décider de faire, parce qu'il y a comme 2 chemins dans la Bible. La Bible nous parle de 2 chemins. Il y a un chemin étroit et resserré, comme une porte étroite et resserrée, puis il y a un chemin large et spacieux. Moi, je crois qu'il y en a qui ont resté. Puis ça nous dit que la porte pour être sauvée, c'est Jésus qui est la porte. Ça dit aussi que c'est Jésus qui est le chemin. Fait que si tu crois en Jésus, tu l'acceptes comme ton sauveur puis ton Seigneur, tu rentres dans la porte qui t'amène au salut. Mais par la suite, il faut que tu demeures en communion avec Jésus puis tu marches selon tes enseignements parce que le chemin, Jésus dit, je suis chemin. Fait que suivre Jésus, tu es dans le chemin. Par contre, Moi, je crois qu'il y a des chrétiens qui ont resté dans le cadrage de porte. Ils veulent être sauvés, ils acceptent Jésus, mais ils veulent pas marcher dans le chemin. Ils lisent pas le Bible, ils se nourrissent pas spirituellement, puis ils veulent pas mettre en pratique. Puis jamais ils se remettent en question, dire « Là, Seigneur, j'ai tel péché dans ma vie, je te demande de me pardonner, de me délivrer, puis me transformer, ou je veux faire des choses pour ton œuvre, je te demande de m'ouvrir des portes, je veux m'investir. » Si vous êtes dans cette pensée-là, c'est sûr que le Seigneur va vous en mettre des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Mais il y a des œuvres qui sont les œuvres de notre humain. Daniel Poulain aura pu vivre toute sa vie sans vivre pour Dieu. J'aurais fait la volonté de Daniel Poulain toute ma vie. Avec aucune attitude de servir Dieu, j'aurais pu vivre toute ma vie selon ce que moi je pense de ma vie, au lieu de dire « je veux suivre ce que Dieu pense selon le plan que lui a préparé d'avance pour moi ». C'est clair que si tu veux être sauvé et si tu veux être riche pour Dieu, demande-y, il y a plein de choses qu'il a mis devant toi, selon tes capacités, et tu vas en produire plein de fruits dans ta vie. Pour arriver à ne pas en produire, il faut vraiment que tu sois un rebelle. Tu es assis à l'église, là, si tu y vas, puis à chaque fois tu entends quelque chose dans l'enseignement, ça c'est pas dans ce temps-là, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour lui, là on n'accepte jamais de se faire parler par la Bible. On n'accepte pas pour que le Saint-Esprit nous amène à marcher comme il veut. On se rebelle contre tout ce qu'on entend. Il y en a des gens comme ça, qui se rebellent de tout ce qu'ils entendent, de tout ce qui vient de la parole de Dieu. Même s'ils veulent être sauvés et qu'ils croient que Jésus est le Sauveur, ils ne se sont pas réellement repentis et convertis pour vouloir appliquer à leur vie le nouveau mode de vie que Jésus veut nous enseigner dans la Nouvelle Alliance. Fait que c'est sûr que si vous voulez l'en produire, t'aurais mis ça à la banque, puis tu n'aurais eu des intérêts. Puis le maître aurait été fier. Ce qu'il veut pas, c'est que ça reste sans résultat. Mais on va voir en compte. Il y a un autre verset qui nous parle un peu dans cette idée-là. Luc 12, 42. Et le Seigneur dit... Quel est donc l'économe fidèle ou le gérant fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », puis il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer. Il dit, le maître de ce serviteur viendra le jour où il s'en attend pas, et à l'heure qu'il ne le connaît pas, puis il le mettra en pièces, puis il donnera sa part avec les infidèles. Ça, c'est un autre verset qui nous parle un peu, que nous sommes des administrateurs de Dieu. Jésus nous a établis, Jésus vous a établis, c'est pas un hasard que vous êtes ici, là, présentement. C'est Dieu qui vous a placé ici. Puis il y avait des actions, des tâches à vous faire faire. Il dit que vous êtes des gérants, puis il s'attend à ce que vous soyez des gérants fidèles et prudents, établis par Jésus, pour donner la nourriture. Dans ce contexte-là, c'était pour donner la nourriture tant que ça en avait besoin. Puis Jésus, il dit, « Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Un jour, Jésus va revenir, puis vous allez être excessivement heureux d'être trouvé, être en train de travailler pour lui. Si dans votre cœur, vous dites, « Ah, ben moi, ça prend trop de temps, là, Jésus ne revient pas », là, on se détourne. Là, on commence à manger et à boire avec les méchants, puis on bat les frères et sœurs, puis on commence à vivre dans des bouches j'ai pas besoin de vous donner le détail, en rejetant l'appel dans lequel, pourquoi Dieu nous avait établi ici, c'est pour travailler à son œuvre. Il y a un rejet qui va y avoir de la part de Dieu. La morale que je dois en tenir compte, ou la pensée que je dois en tenir compte présentement, Jésus s'attend Puis il dit même, soyez heureux que même je revienne, que vous soyez en train de faire ce que je vous demande, parce qu'il y a des récompenses. Il y a un autre verset qui nous dit, c'est bien bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Moi, c'est cette phrase-là que je vais entendre quand Jésus va revenir. On continue à faire l'étude. Là, on rentre dans le sujet des offrandes, parce que tous les dons, notre capacité de servir par les dons qu'on a reçus, c'est une chose. Mais financièrement, qu'est-ce que le Seigneur s'attend des finances? Matthieu 6, 1 à 4. Quelle attitude dois-je avoir quand je donne? Il y en a plusieurs. Matthieu 6 nous dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque donc tu fais l'aumône, c'est-à-dire l'aumône, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu donnes de l'argent à quelqu'un pour aider un pauvre ou aider dans l'œuvre de Dieu. Quand tu fais l'aumône, sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues puis dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? C'est à chaque fois que tu fais l'aumône, que tu donnes à quelqu'un, tu sonnes la trompette, « Regardez-moi, je donne à cette personne. » Là, il y a le chèque des mains, puis la photo, ça passe dans le journal, tout le monde le sait, il a donné. Il dit, « Quand tu donnes, sonne pas de la trompette. Essaye pas de paraître. » Jésus trouve ça hypocrite. Puis il dit qu'ils ont déjà leur récompense. Tout le monde va voir, « Félicitations, t'as fait un beau don. » Puis on remercie. Fait que le gars, il a déjà sa récompense. Il dit, tu n'auras pas de récompense auprès de ton père. Quand tu donnes, on va le voir, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Afin que ton aumône se fasse en secret. Puis ton père qui voit dans le secret, te le rendra. Ça veut dire quoi, ça? Quand tu es en train de donner, là, d'habitude, pour les droitiers, ils donnent de leur main droite. Les gauchers donnent de leur main gauche. Quand ils prennent ça, mais dis-les même pas à ton autre main que tu as donné. Arrange-toi que ta main ne sache pas. Si ta propre main ne le sait pas, ça veut dire qu'il n'y a pas personne d'autre autour qui va le savoir. Qui est important qu'il sache? Dieu qui est important qu'il sache. Puis croyez-moi, tout ce que vous faites de don pour aider, Dieu le voit, puis il dit, tout ce que vous avez fait en secret, votre Père vous le rendra. Même un verre d'eau! Fait qu'il faut faire attention quand on donne, pas chercher à se montrer, puis à chercher les félicitations. Puis de péter bretelles. J'ai donné tant dans mon année. Puis là, il y a une photo dans le journal. Dieu, il trouve ça hypocrite. Une autre attitude. Comment est-ce que je dois donner? 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun de vous donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans avec quelle attitude que je dois avoir quand je donne?
La joie.
La joie. Yeah. Hein? Dans le bonheur, d'être content de donner.
Sans contrainte.
Puis, sans contrainte, ça veut dire quoi, sans contrainte?
En espérant de recevoir?
Pas le sens de contrainte. Non. Non. Hein? Non. Contrainte. Être forcé de donner. Dieu, il veut pas que vous vous sentiez obligé de donner. Il veut pas que vous soyez forcé. Il veut pas que vous le fassiez parce que vous êtes forcé. Il dit sans contrainte, ça veut dire contraindre quelqu'un, ça veut dire le forcer. Il dit donner sans contrainte, ni tristesse. Ça me fait bien de la peine de te donner ça. Je voudrais le garder, mais... Donner parce qu'on pleure pour parce qu'on donne, puis ou parce qu'on se sent obligé de donner. Bon, moi, je suis obligé de te donner parce que Dieu dit qu'il faut que je sois généreux. Je veux te donner, mais ça me fait bien de la peine, j'aimerais bien le garder. Dieu le voit, ça, dans quelle attitude qu'on donne, puis il veut pas qu'on donne dans cette manière-là. Dieu, il aime quoi? Il aime ça quand on donne avec joie. Ah, oh, je suis content de te donner ça. Ça me fait plaisir de te donner ça.
Avec joie.
Avez-vous un sourire ce matin puis dites, je suis content de te donner ça.
Amen.
Sans le dire à personne, puis on dit à personne, ça me fait plaisir vraiment de te le donner. Puis Dieu, il aime ça. Ça le dit. Il aime celui qui... Dieu, là, quand il regarde quelqu'un en train de donner à quelqu'un, puis qu'il donne avec joie, Dieu, il aime ça. Ça le fait plaisir, ça y réchauffe son cœur à Dieu de voir quelqu'un qui donne avec joie. C'est fort.
Ça prend de
l'humilité, puis il faut le... Moi, je crois que comme que il nous le dit de faire ça, c'est parce qu'il veut qu'on le fasse de cette façon-là. À partir d'aujourd'hui, là, sentez-vous plus obligé de donner. À partir d'aujourd'hui, donnez pas du reculon. Donnez avec joie. Il y a un grand pasteur, pas un grand pasteur, il y a un pasteur sage que je connais. Lui, il dit, donnez avec joie. Puis si vous n'avez pas de joie, donnez quand même et demandez à Dieu de la joie. Mais là,
c'est bon.
Mais il faut apprendre à donner avec la bonne attitude. C'est pas naturel tout le temps de donner, surtout si on a une nature égoïste. On veut tout garder pour nous autres. Fait qu'on veut pas donner. On se sent forcé contre nous autres, puis on a de la peine si on donne. Mais il faut demander à Dieu qu'il remplisse notre cœur de joie quand on donne, puis c'est Dieu qui va le faire. Votre cœur va être rempli de joie. C'est un but à atteindre. Être capable de donner tout le temps en étant content. Pas se sentir qu'on perd quelque chose. Au contraire, on est en train de s'enrichir quand on donne. Parce que Dieu, il a dit qu'il nous le remettrait. Votre Père céleste vous le rendra. Puis quand il donne, lui, c'est pas un pour un. C'est au centuple. N'oubliez pas ça. Un autre verset dans Luc 12, un autre qui fait partie en cours d'une attitude qu'il faut faire attention. Lui, il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Être avare. Être séraphin. Nous autres, on a la caractéristique au Québec avec le film de Séraphin, là. Ça nous démontrait vraiment c'est à quoi être avare. Il bronçait son argent, puis il était comme en adoration devant son argent. Mon or! Puis là, il est comme s'il y avait une jouissance dans son argent. Puis les yeux, il pitillait de son argent. Puis il donnait pas 5 cents, puis il chargeait toujours le gros prix à tout le monde. Il pensait qu'à lui. Exact. Il dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Même s'il est dans l'abondance. Puis là, il a dit une parabole, que la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté, puis il raisonnait en lui-même, que ferais-je? Il dit, je vais abattre mes greniers, je vais en bâtir des plus grands, j'y amoncerai toute ma récolte et tous mes biens. Puis là, je dirai à mon homme, t'as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et réjouis-toi. Là, on voit quelqu'un qui a bien accumulé. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Là, on voit, présentement, dans ces versets-là, on est en train de voir une caractéristique du monde moderne d'aujourd'hui, dans le monde capitaliste, matérialiste, où ce qu'on est. Tout le monde... pense, faut que je m'accumule, faut que je me ramasse, faut que je bâtisse les mes greniers, faut que j'agrandisse mes richesses. Je me donne même une sécurité là-dedans. Puis là, il ramasse, puis il empile, puis il ramasse, puis il regarde son compte de banque, puis ça monte, puis il a comme une fierté, puis il se pense qu'il a atteint quelque chose quand il a accumulé tous ces biens-là. Dieu regarde tout ça, puis il dit, insensé. Il dit, aujourd'hui même, tu vas mourir, puis tout ce que tu as ramassé, à qui ça va aller? Ça va aller à tes descendants, ils vont tout friper ton argent. T'es riche pour toi-même, oui, mais devant Dieu, t'es pas riche pour Dieu. T'as pas investi dans son œuvre, t'as ramassé pour toi. Dieu trouve ça insensé. Parce que quand, dans ce monde présentement, si tu penses rien qu'à ta vie présente, puis tu te ramasses rien pour l'œuvre de Dieu, tu n'auras pas de récompense l'autre bord. Puis tout ce que tu as ramassé, même si tu étais riche, tu vas tout perdre ton argent, puis ça va être laissé ici quand tu meurs, tu n'emmènes rien de ce qu'il y a ici, puis ça va être donné à tes enfants, ou aux voisins, ou à ceux à qui l'héritage doit aller, puis tu profiteras pas de toute ton accumulation. Si tu veux être riche pour Dieu, investis-toi dans l'œuvre de Dieu. Mets au service de Dieu les dons que tu as reçus, puis investis-toi pour son œuvre. C'est là que tu te ramasses des récompenses dans les cieux. Puis tu vas devenir riche pour Dieu. Puis quand tu vas mourir, tu vas rentrer dans les richesses éternelles que tu t'es ramassées pendant que tu étais sur la terre. Puis croyez-moi, il y a des gens qui vont être l'autre bord, ils vont être comme sur l'aide sociale l'autre bord parce qu'ils n'ont rien ramassé. Ils vont avoir juste le salut, puis ils n'auront pas de récompense. Parce que leur vie est focussée uniquement sur « je me ramasse de l'argent pour mon temps terrestre, puis ils n'investissaient pas dans l'œuvre de Dieu. » Si vous voulez des récompenses, l'autre bord, il faut commencer à investir pour Dieu, vivre pour Dieu, faire avancer l'œuvre de Dieu, être généreux, donner avec joie. Puis là, il y a un trésor qui s'amasse. Une autre attitude qu'on doit faire. 1 Thessaloniciens 4:6. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Qu'est-ce que je dois faire attention dans ce verset-là? Je dois faire attention de pas agir envers mon frère en fraudeur puis en cupide dans les affaires. Des fois, là, oui. Il y a des situations que les choses doivent. Oui. Il y a une question de travailler en dessous de la table. Ça tombe dans la question de la fraude. Ça veut dire que dans nos affaires avec nos frères et sœurs, des fois, je vais y vendre ça. Oh, mais je vais en profiter quand je charge 20$ de plus que ce que j'aurais vendu à un autre. On agit de même envers notre frère. Puis là, il dit, gardez-vous d'agir en cupide. Cupide, c'est que tu n'en as jamais assez d'argent. Puis tu penses qu'il faut que tu la ramasses, ton argent, puis en archer plus. Puis quand tu vas faire des affaires avec ton frère, tu cherches à y en charger encore plus parce que tu n'as pas assez. Puis tu uses de fraude aussi, des affaires croches, puis des affaires autour de la table, du stock volé, peu importe, on essaye de passer à nos frères. Dieu voit tout ce qu'on est en train de faire. Puis il dit, Dieu va tirer vengeance de toutes ces choses. Ça nous est dit. Ça parle à des chrétiens. Il ne faut pas penser que ça parle à rien qu'aux gens du monde. C'est vrai que les gens du monde. Mais là, on parle que nous autres, en tant que chrétiens, il faut faire attention que dans nos affaires avec nos frères, qu'on ne soit pas en fraude ou en cupidité, parce que le Seigneur va tirer vengeance. Dieu voit les petites passe-passe ou les crocheries ou notre manière tordue de cupidité ou de fraude qu'on essaie d'agir envers les autres. Puis il va tirer vengeance de tout ça, puis on va avoir des conséquences dans notre vie. Il faut être honnête. Puis envers nos frères, il faut être comme généreux. Puis si vous avez, vous vous rappelez des situations où vous n'avez pas été généreux et honnête envers vos frères, demandez pardon à Dieu tout de suite pour pas que Dieu soit obligé de vous le remettre sur le nez. Parce que c'est sûr qu'on va avoir à rendre compte si on ne demande pas pardon. Puis si vous êtes capable de vous arranger avec votre frère, mais arrangez ça, cette situation-là, que vous avez usé de fraude ou de cupidité envers quelqu'un. Qu'est-ce qu'on doit apprendre dans le prochain verset? Hébreux 13, 16. Encore une attitude que je dois avoir quand je donne. Et n'oubliez pas la bienfaisance et de la libéralité, car c'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Qu'est-ce que la bienfaisance? Des œuvres de bienfaisance, c'est quoi? Faire des bonnes œuvres. Faire des bonnes actions. Les œuvres de charité, les œuvres de bienfaisance, c'est des œuvres pour faire du bien. Bon, mais là, il nous dit à nous autres de ne pas oublier de faire de la bienfaisance, faire des bonnes œuvres, et de la libéralité. Libéralité, ça veut dire quoi? De la générosité. Être plein de bonnes actions et plein de générosité en donnant. Pourquoi? C'est dans de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça veut dire que quand tu es en train de faire un effort pour rendre des services, faire des bonnes actions, veux pas te faire un sacrifice. Tu aurais pu toi-même aller écouter à tes vies, faire les choses que tu aimes. Mais te sacrifier un temps de ta vie, te sacrifier de ton argent, te sacrifier de tes biens, te sacrifier de quelque chose pour faire des bonnes actions et aussi pour être généreux. Mais Dieu, quand il regarde ça, c'est dans de tels sacrifices qu'il prend plaisir. Dieu, là, que tu ailles offrir un agneau là sur un autel en sacrifice, là, c'est plus ça qu'il demande. Il demandait ça dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il te demande, fais plein de bonnes actions. Sois généreux avec tes biens et ton argent. Puis Dieu, il aime ça au bout. Il prend plaisir de nous regarder. Tout à l'heure, quand on lui disait qu'il aime quand on donne avec joie. Dieu, il est content de nous voir aller. Merci Seigneur. Il y a encore des parties de notre vie qui peuvent plaire à Dieu. Quand on est généreux. 1 Timothée 6, une dernière mise en garde dans la petite étude sur ce sujet-là. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, puis se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Qu'est-ce qu'il faut que je prenne garde dans ce verset-là?
Aimer plus, beaucoup que t'aimes. Qu'est-ce que tu as sur la terre? Plus que le Seigneur.
Oui. Puis tomber en amour avec ça, là, souvent, là. Oh, moi, je suis en amour, j'aime ça avoir un gros compte de banque, j'aime ça avoir tous les biens. Là, toute notre vie est basée là-dessus. Faut que j'en aie plus. Je n'ai jamais assez. Le gars, il a 1 million à la banque, son but, c'est de n'en avoir 2. Il n'a même pas de besoin. Il a déjà tout ce qu'il faut. Mais lui, il en a atteint 1, puis il veut en atteindre 2. Puis il est rendu à 2, il veut en avoir 3. Tu n'en as jamais assez. L'amour de l'argent, c'est une racine de tous les maux. Puis si, il y en a quelques-uns qui ont été possédés de ça, là, puis se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. À se casser la tête pour n'en faire plus. Puis le Seigneur nous enseigne, sois généreux. Dieu, il te regarde aller, Dieu, il est fier, puis Dieu nous a déjà promis de pourvoir à tous nos besoins. On arrive dans une autre section de notre étude. Combien dois-je donner? Parce que là, j'espère que ce qu'on a appris à date, ça vous a stimulé à dire, hey, moi, je veux donner dans l'œuvre de Dieu. Je veux me donner dans ce que je suis, dans ce que j'ai. Mais y a-tu quelque chose qui parle dans le Nouveau Testament sur combien dois-je donner? Galates 6, 6. que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, dans le temps des apôtres et des prophètes, ceux qui s'impliquaient dans l'œuvre, souvent ils étaient un ancien, un pasteur, évêque, diacre, n'importe quoi, peu importe le titre ou la tâche qu'il avait, ils s'impliquaient du lieu de rassemblement, puis le Seigneur avait dit que celui qui prêche l'Évangile vive de l'Évangile. Fait que les gens qui étaient autour faisaient part, donnaient une part, une partie de ce qu'il y avait. Dans ce temps-là, c'était pas vraiment de l'argent qu'il y avait. Si le gars, il élevait des poulets, s'il donnait des poulets, si l'autre, il élevait des cochons, il donnait un cochon, si l'autre, il élevait... Tu sais, il donne selon ce que t'as, puis il donnait une part pour y aider à vivre, cet ouvrier-là. Puis même dans l'Ancien Testament, il y avait le temple de Dieu, puis les gens voulaient offrir des sacrifices, ils offraient un sacrifice à Dieu, le sang était versé pour la purification, et l'animal était donné aux sacrificateurs et aux lévites, qui prenaient une part, puis ils mangeaient ça pour vivre. C'était leur tâche, ils vivaient de ce que ça rapportait au temple. Puis il y a des gens qui donnaient aussi des offrandes dans le temple, puis ils servaient de ça pour l'entretien du temple. C'était un peu la même chose là, dans le Nouveau Testament. Souvent, si tu fais ça dans une maison, ça ne te coûte rien pour le local, mais si tu, comme là, on s'est mis ensemble, on loue un local, on a des frais pour le local. Fait que quand on donne, on passe une offrande pour amoncer les offrandes, c'est pour aider à payer le local, payer les frais d'électricité. On vit au Québec, ça prend du chauffage. On gèle le site au Québec, ça prend du chauffage. Puis là, dans le moment où on est, notre pasteur, il est assisté de 2-3 assistants qui l'aident à prêcher la parole. Fait que le pasteur, il n'a pas besoin d'être à plein temps dans ça, pas besoin d'y payer un salaire. Il continue à travailler, on ne sait pas réellement de l'argent pour y payer un salaire. Puis bénévolement, il prêche, il fait les enseignements, puis il y en a d'autres qui l'aident. Fait qu'on sauve un coup. Mais si on serait dans une église qui a 50, 60, 70 personnes, l'ouvrage à faire d'aller visiter tout le monde, ça prend quelqu'un à plein temps. Puis normalement, chacun donne, puis ça donne un salaire au pasteur, que le salaire peut se faire la job de superviser, d'aller faire les visites, puis d'aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin spirituellement parlant. Je ne dis pas qu'il va lui rendre des services toujours pour tout l'ouvrage normal, manuel, mais pour l'œuvre, superviser l'œuvre. Quand une église est assez grande, qu'elle peut payer un ouvrier, là, l'ouvrier travaille à plein temps dans l'œuvre. Fait que ça nous dit dans ce verset-là, que la Bible nous dit dans ce verset-là, donnez une part de ce que vous avez. Fait qu'il n'y a pas de chiffre d'écrit, c'est vous autres qui décidez combien vous voulez donner dans l'œuvre. On va voir d'autres versets. 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part, c'est encore l'idée du port, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ça veut dire que dans ce verset-là, ça nous parle encore, chacun de vous, mette à part une part, ce qu'il pourra. Selon ta prospérité, selon tes moyens en français. Essaye pas de donner plus que tes moyens, tu vas te faire une dette. Vas-y selon ce que tu gagnes, donne quelque chose dans l'œuvre. Mets une part de ce que tu as, donne-les dans l'œuvre de Dieu. De cette façon-là, tu vas avoir toi aussi participé à l'œuvre de Dieu selon tes moyens. Tu n'auras pas été endetté. Puis, tu vas être béni de Dieu parce que tu l'as fait avec joie, puis Dieu va te bénir parce qu'il va aimer ça de voir faire ce sacrifice-là. 2 Corinthiens 9, 7. Ça nous parle encore combien qu'on donne. On l'a lu tantôt. Que chacun de vous donne comme il a résolu en son cœur. sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est-à-dire, dans ta tête, tu demandes à Dieu, Seigneur, c'est comment il faut que je donne. C'est une résolution que tu prends toi-même. C'est pas un autre qui dit donne ça. C'est toi qui décides, tu as résolu de donner ça, puis tu restes fidèle à donner ce que tu as à donner. Puis Dieu le voit. Mais donne ce que tu as décidé de donner. Sens-toi pas forcé, comme qu'on a vu dans l'autre verset, avec contrainte. Et te sentir forcé. Tu donnes ce que tu as décidé, puis personne n'a jugé du montant que tu vas donner. 2 Corinthiens 8, 12, ça nous enseigne encore quelque chose là-dessus. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Équitabilité. Est-ce que je dois aller m'endetter pour pouvoir donner à l'autre? Non. Dieu nous demande pas de s'endetter. Dieu nous demande de considérer ce qui pourrait être votre surplus, puis d'aider dans son œuvre, d'aider à ceux qui en manquent. C'est ça qu'on fait un peu ici à chaque semaine. On amène un petit peu de nourriture, puis on fait tirer le panier après pour aider quelqu'un de pauvre. On donne un panier de nourriture. Ça nous a pas appauvri d'amener un petit quelque chose puis de le donner. Mais c'est une part qu'on donne pour aider ceux qui sont dans le besoin. Ceux qui sont dans le besoin, ils demandent, j'aimerais ça pouvoir avoir l'occasion de pouvoir avoir le panier. Fait qu'ils font un tirage après. S'il y a 2, 3, 5 personnes qui n'ont besoin, ils font un tirage, on donne le panier. Puis, ça nous a pas appauvri. Notre superflu a aidé quelqu'un qui était dans le besoin. Dieu il aime ça. Il faut faire plein de petites affaires de même pour s'entraider les uns les autres. Puis aussi, on en donne aussi pour l'Église, pour payer le local, payer l'électricité, tout ça. Puis Dieu voulait qu'on donne avec joie, puis il est fier de ça. Puis il dit, il faut pas que tu deviennes en détresse pour soulager les autres. Il dit, quand tu donnes, il faut que tu y ailles selon ce que tu as à ta disposition et non de ce que tu n'as pas. Va pas t'endetter. Dieu, jamais, il va te dire, endette-toi pour donner. C'est anti-biblique. Dieu est contre les dettes. Il y a même une petite anecdote que j'ai entendue de supposément un prédicateur aux États-Unis. Il disait à ses brebis, « Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, vous allez toutes me faire un chèque de 150$. Puis si vous n'avez pas d'argent, faites-les par la foi, mettez-les sur votre carte de crédit, puis le Seigneur va vous le remettre. » Il y a quelqu'un qui parle de même. C'est un antéchrist, c'est un faux prophète, il prêche des faussetés, c'est une personne qui se nourrit de la graisse du troupeau, dans le sens qu'il siphonne les brebis, puis tu sais, je pourrais en dire des insultes de cette façon-là. C'est pas biblique. Dieu, il dit, va pas au-delà de tes moyens, donne ce que tu as résolu, donne dans l'œuvre avec joie, fallait pas parce que tu sens forcé, obligé, puis Dieu, il est fier de ça. Un autre point dans ça, de la manière de la quantité à donner, dans Marc 12, 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Le tronc, c'est comme le panier, puisqu'il y avait un panier, tout le monde mettait de l'argent dans le panier. Il regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vient aussi un pauvre, une pauvre veuve, a émis 2 petites pièces, faisant 1 quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, il leur dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis leur superflu, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Voyez-vous, c'est pas la quantité d'argent que tu mets qui compte. ça compte si tu es riche. Mais si tu y vas selon tes moyens quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est sur l'aide sociale de donner 100$ par mois. Tu ne peux pas y exiger ça. Elle gagne déjà ce qui est nécessaire pour sa survie. Elle est comme la veuve. Quelqu'un qui est sur le bien-être, qui met 10$ dans le tronc, c'est comme si la veuve avait mis ses 2$. C'est qu'est-ce qu'il y a pour vivre? Tu vas te payer aucun chèque de bien-être aujourd'hui, c'est à peine si tu payes ton loyer. Tu as l'électricité, tu as ta bouffe, tu as tout à payer. Avec ton chèque, là, tu gagnes un revenu de crève-faim, c'est juste pour survivre. Tu es comme la veuve dans cet exemple-là. Puis si tu donnes dans 10$, 20$, mais peu importe le montant qu'elle décidera, c'est comme 1000$ pour le riche. Puis même le riche, dans d'autres occasions, le riche, lui, gagne 1000$ par semaine, il donne 100$ dans le pot, il ne s'est rien privé, il reste encore 900$ dans sa semaine pour vivre, ça n'a même pas fait un petit effort. Puis Jésus regarde cela. Il les a tous checkés dans le tronc, là, il est checké à donner. Puis il a pris la peine de le dire à ses disciples. Pourquoi que c'est arrivé de même? Parce qu'il voulait que les disciples le savent, qu'on l'a vu dans un autre verset. Un jour, on va avoir à rendre des comptes de notre administration. Il sait comment ce qu'on a comme revenu, puis il sait comment ce qu'on est généreux, puis de le donner avec joie. Il voit tout. On ne peut rien y cacher. Mais il s'attend à ce qu'on donne avec générosité, pas s'endetter, mais donner avec générosité, puis le donner avec joie, puis il aime ça. Puis sentez-vous pas gêné si vous donnez 20$, sentez-vous pas gêné si vous donnez 5$, c'est selon votre moyen qu'il faut que tu donnes. Je connais un témoignage que j'ai entendu d'un frère aux États-Unis, que lui est tellement riche, il gagne tellement d'argent, qui donne 90% de tous ses revenus, puis il n'a assez de pour vivre de 10%. Il vit encore dans l'abondance avec son 10%. Quelqu'un qui gagne 1 million par année, là, ou quelqu'un qui en gagne 10 millions par année, à un moment donné, là, t'as ce qu'il te faut pour vivre, puis après ça, le reste, c'est tout de l'over. Tu fais juste grossir le chiffre dans ton compte de banque. Fait que c'est un frère-là a résolu de donner 90% de tous ses revenus pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Puis lui, il se garde juste 10%, puis il n'a assez. Puis il a donné selon ce qu'il avait résolu dans son cœur. Puis il donne avec joie. Puis le Seigneur, il voit ce qu'il fait, puis il se ramasse des fruits pour la vie éternelle. Puis quelqu'un qui est dans cette position-là, on voit clairement qu'il met au service des autres le don qu'il a reçu. Lui, son don, c'est de faire de l'argent. Son don, c'est un ministère de faire de l'argent. Dieu a donné une sagesse et une position dans le monde pour être capable d'en faire. Son ministère, c'est de faire de l'argent et il fait vivre l'œuvre de Dieu. Il y a je ne sais pas combien de pasteurs qui sont subventionnés par son argent ou des missionnaires. Ou, tu sais? Parce que c'est à l'appel que Dieu, puis le don que Dieu lui a donné, puis il investit sa vie dans cela. Là, je vais vous donner un autre verset encore pour une quantité. Alors, écoutez-moi bien. Je ne veux pas que personne tombe à terre après avoir entendu ce verset-là puis de la manière que moi je le perçois. Ce que je vais vous expliquer, réfléchissez là-dessus, puis après ça, vous tirez vos conclusions. On va voir un exemple que Jésus parle de la dîme dans Matthieu 23:23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette, du cumin, ça c'est des épices, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité, car c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Qu'est-ce que je dois comprendre là-dedans? Pour ceux qui ne savent pas, la dîme, c'était un enseignement qui était dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, pas dans les 10 commandements. Dans la loi de Moïse, comme dans la loi, il fallait qu'il soit circoncis, il fallait qu'il offre des sacrifices pour les animaux, il fallait qu'il y avait plein, il y avait 613 enseignements de préceptes pour la loi. Puis un de ces préceptes-là, c'est que les gens étaient obligés de donner la dîme. Puis dans cet enseignement-là, la dîme, c'est un dixième de tout ce qu'ils gagnaient. Un dixième de tout leur revenu. Fait que c'était un principe à obéir dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse. Jésus a regardé les pharisiens qui étaient, il ne parle pas à ses disciples, il parle à des gens pharisiens, des gens religieux, des gens qui disent qu'ils pratiquaient la loi. Jésus les regarde et dit, vous payez la dîme, vous payez 10% de toutes les épices, la menthe, la nette, du cumin, puis vous négligez ce qui est le plus important, la justice, l'amour, puis la fidélité. C'est ça?
Miséricorde,
c'est le pardon. Il dit, c'est là qu'il fallait pratiquer la fidélité. Voyons ce qui est mon verset, là, je me cherche. La justice dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses, payer votre dîme. Comment est-ce que je dois prendre ce verset-là quand je le dis? Parce que c'est le seul verset qui fait allusion que Jésus a dit, puis que les apôtres ont dit, il n'y a pas d'autre enseignement dans tout le Nouveau Testament qui parle de la dîme comme étant une chose qu'il fallait faire. C'est le seul. Mais dans ce verset-là, ça dit à des gens religieux qui voulaient pratiquer la loi, il leur a dit, c'est là qu'il fallait que tu pratiques. C'est ça que ça veut dire, là, dans ce sens-là. Ça dit pas, voici comment vous devez vivre dans le Nouveau Testament et pratiquer. Il est en train de parler au passé à des gens qui se disaient pratiquer la loi. C'est ça qu'il fallait faire, payer votre dîme et pratiquer la justice pour pratiquer la loi. Si tu veux obéir à la loi, pratiquer la loi, pratique la miséricorde, la justice et la fidélité et paye ta dîme. C'est ça que Jésus a dit dans ce texte-là. Il n'a pas dit un verset pour dire, maintenant, dorénavant, payez-la. C'est payer la dîme ou être obligé de payer la dîme ou obliger quelqu'un d'autre dans l'Église à payer la dîme, c'est pas biblique. On n'a pas le droit d'obliger quelqu'un à donner quoi que ce soit dans le Nouveau Testament. Les gens étaient obligés dans la loi de Moïse. Il n'y a aucun verset dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, que Jésus ou les apôtres disent de la payer. C'est un fardeau additionnel que des chrétiens ont imposé sur les gens, sur les frères et sœurs, en les obligeant, en leur mettant une condamnation. C'est dans l'Ancien, dans la loi de Moïse, qui était obligé puis qu'il y avait une condamnation à ceux qui ne le faisaient pas, et des bénédictions à ceux qui le faisaient. Puis, si vous dites à quelqu'un ou à toi-même, « Je suis obligé de payer la dîme pour pratiquer la loi, mais fais-toi aussi circoncis, pratiquer la loi, va aussi pratiquer les 613 principes de la loi, parce que si tu penses qu'il faut que tu la pratiques la toute, mais viens pas imposer aux autres de la faire, parce que c'est pas biblique. » J'ai dit plein de versets comment est-ce que le Nouveau Testament parle de les offrandes, donner avec joie ce que tu as une part de tes revenus, ce que tu as résolu dans ton cœur, sans te sentir obligé ni forcé, sans contrainte. Il n'y a pas de contrainte dans la Nouvelle Alliance pour le don. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu prend plaisir à la générosité pour bonnes actions. Fait que si aujourd'hui, vous aviez ce fardeau-là de vous sentir obligé de payer la dîme, ou si vous sentiez obligé de l'imposer aux autres, chassez ça dans le nom de Jésus, ça vient de la loi. Puis c'est une condamnation qui vient de l'Ancien Testament et non pas du Nouveau Testament. Une autre preuve pour vous expliquer ça, il n'est pas écrit dans votre texte, mais moi je vais vous lire un petit passage dans Actes 15. Quand les premiers apôtres sont arrivés, Paul, est arrivé auprès des douze apôtres à Jérusalem. Puis là, il voulait débattre d'une question. Qu'est-ce que je dois imposer aux nouveaux chrétiens comme principe obligatoire? Dans Actes 15, 28,
c'est au concile de 35-40,
peut-être 50. Il a paru bon au Saint-Esprit à nous de vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang,
des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Le débat est à est-ce qu'on doit les exiger à les circoncire, les nouveaux chrétiens? Est-ce qu'on doit les exiger les autres principes de la loi? Les 12 apôtres n'ont pas obligé les nouveaux adhérents à la doctrine de Christ, ne les ont pas obligés à quoi que ce soit d'autre que d'abstenir de l'impudicité, puis de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, ça c'est de l'idolâtrie, puis de s'abstenir des animaux étouffés et du sang, parce que c'était prêché dans la loi de Moïse, les animaux étouffés et du sang. Puis c'est quelque chose qui était, pour ne pas être en scandale aux Juifs, mais abstenez-vous-en vous autres aussi au début, mais dans le Nouveau aujourd'hui, ils n'en parlent plus, parce que Pierre, il avait vu une vision, puis Dieu il avait dit, avec tous les quadrupèdes et les reptiles, puis il dit « tue et mange ». Dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus à respecter les principes de l'Ancien, puis pas manger d'animaux impurs, puis de pas faire ci, faire ça, conformément à la loi. On suit plus la loi. La loi est encore là, puis elle condamne tous ceux qui cherchent à appliquer la loi. Nous, on est sous la Nouvelle Alliance, sous la grâce. Puis on marche sur marcher dans une liberté d'obéissance parce que vous voulez le faire, parce que vous aimez le Seigneur et le servir. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce point-là? J'ai presque fini. Dieu nous exhorte à se ramasser un trésor. Dans Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où ce que la teigne et la rouille détruisent, où ce que les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Jésus nous appelle à devenir riches dans le ciel. Vous voulez avoir un trésor? Amassez-vous-en pas sur la terre des trésors. Amassez-vous-en un dans les cieux, puis c'est celle-là qui est dans les cieux. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de mythe qui va manger votre trésor, puis il n'y a pas de voleur qui va venir vous enlever ce que Dieu vous a ramassé. Luc 12, 33. Encore dans le même sens. Vendez ce que vous possédez. Donnez-le en au monde. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où ce que le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Il est en train encore de nous encourager à se débarrasser de tout ce qu'on accumule des fois puis qui sert, qui est en train de pourrir. Débarrassez-vous, vendez votre stock inutile, donnez ça dans l'œuvre. Vous êtes en train de vous ramasser un trésor où ce qui s'épuisera pas. 1 Timothée 6, 18. Paul dit à Timothée, recommande aux riches, recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de se ramasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur le fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Dieu est en train de dire aux riches, faites beaucoup de bonnes actions. Soyez libéral, soyez généreux, donnez vos biens. Il parle aux riches, donnez vos biens. Amassez-vous un trésor sur le fondement solide. Ça fait-tu peur à quelqu'un, ça, ces versets-là? Moi, ça m'excite à dire, il faut que je m'en ramasse encore plus. Dieu, il me dit, chaque fois que je suis en train de m'investir dans son œuvre, verre d'eau, service, donation, être généreux en bonne action ou en généreux avec mes biens, je me ramasse un trésor que personne ne va m'enlever. C'est un trésor qui ne s'use pas. Ici, notre trésor, il s'use. Tu as beau avoir une belle maison, s'il ne l'entretient pas, elle va pourrir, puis elle va tout se décomposer, puis retourner en... Tu sais? On a du stock qui s'use. Puis on a aussi des voleurs qui rentrent puis nous volent notre stock. Il dit, amassez-vous-en un dans le ciel, puis il n'y a personne qui va vous l'enlever. Puis pour finir avec trois petits versets, bien vite, Matthieu 6, 33, des promesses de Dieu de nous bénir. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand on parle de ces choses, vêtements, nourriture, tout ce qu'on a besoin pour vivre, il cherche premièrement le royaume et la justice. Puis tout le reste va être donné par-dessus. C'est qui va nous le donner? Dieu va pourvoir à ce que vous manquerez de rien. 2 Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Ça veut dire quoi? Oui. Ceux qui travaillent comme cultivateurs le savent. C'est à tes poches de grain, là. Si c'est à saison de planter, tu sors rien qu'un conso de tes grains. Tu sèmes ce conso-là, puis tu gardes le reste. Comment tu peux t'attendre à récolter à la fin? Tu vas récolter rien qu'un petit coin de ta terre. Juste le petit coin que tu as semé. Puis si tu avais des centaines de poches de grains, puis tu as les terrains assez grands, puis tout étend ça, puis tu étends tout ça, tu vas récolter en abondance. Mais dans la vie, c'est comme ça. Plus tu vas être généreux, plus tu vas être au service de Dieu, plus que tu vas te ramasser des bénédictions terrestres et célestes. 2 Corinthiens 9, 8. Exact. Dernier verset. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Qu'est-ce que ça me dit, ça? Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin qu'on possède toutes choses avec de quoi satisfaire à nos besoins, puis qu'on ait encore plus de choses pour donner, pour qu'on puisse être riche en bonne action. Dieu peut vous combler dans tout ce que vous avez besoin et vous en donner encore plus pour pouvoir donner dans son œuvre.
Pas les garder, les donner.
Oui, exact. Pas pour accumuler encore plus de choses dans vos poches, mais pour vous ramasser des récompenses. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on est présenté devant toi. Je te remercie pour ta parole qui nous parle ce matin sur d'être généreux avec nos biens, généreux avec notre argent, généreux avec notre temps pour faire des bonnes œuvres. Seigneur, voilà les offrandes que tu t'attends de notre part. Je te demande de graver ces paroles dans notre cœur afin qu'on ne les oublie pas, que notre cœur soit travailler, chercher le royaume et la justice en premier de tout, sachant que tu vas pourvoir à tous nos besoins et même au-delà pour qu'on puisse en avoir encore plus pour s'investir dans ton œuvre. Je te demande que ton Saint-Esprit puisse graver ces paroles dans chacun. Fais une œuvre, Seigneur, pour que tous garde cette parole et qu'on devienne plein de fruits pour la gloire de ton nom. Je te la demande, je te prie, je te loue pour tout dans le nom de Jésus. Amen.